Chapitre 7. Sachez rendre les autres importants. Le pouvoir et la richesse de chaque individu ne se limitent pas à ses ressources matérielles et à ses moyens de production. Chacun est avant tout riche de sa santé, de son savoir, des relations qu'il entretient avec les autres. Jacques Attali, extrait de La voix humaine. Soyez honnête. Ce qui vous intéresse avant tout, c'est vous-même. Bien sûr, je ne parle pas de vos amis intimes, de votre famille proche, bref, de ceux qui comptent vraiment pour vous, mais de votre entourage social, de vos collègues, vos clients, les connaissances que vous croisez quotidiennement sans être véritablement proches. Mais qu'est-ce qui les intéresse, eux ? Eh bien, eux, pas vous. Chacun vit dans son propre petit monde. Et pour vous intégrer plus facilement, pour rendre vos rapports humains plus constructifs et fructueux, il ne vous faudra jamais oublier ce détail. Car chacun d'entre nous accorde une importance primordiale à sa propre personne avant toutes les autres, et apprécie de se sentir important ou importante. Pas vous ? Vous êtes sûr ? Pourquoi est-ce si important d'être important ? Grave question, n'est-ce pas ? Votre place dans le monde est minuscule, comme la mienne. Pourtant, vous vivez dans votre peau et dans la vôtre seulement. Elle n'est pas interchangeable. Chacun a envie, avec plus ou moins de ferveur, de laisser une marque, une trace de son passage sur Terre, qui ne peut qu'être éphémère. Quoi de plus déprimant que de se dire qu'après notre mort, il ne restera plus rien de nous, sinon dans nos enfants ou dans nos œuvres, si nous avons la chance d'être des artistes. Mais tout le monde ne rêve pas de produire le chef-d'œuvre du siècle. Vous voulez seulement que les autres, votre entourage proche, comme ceux que vous croisez quotidiennement, vous remarquent ou du moins ne regardent pas à travers de vous comme à travers une vitre. Vous existez, que diable ! C'est humain, c'est normal. Et sachez que tout le monde, du capitaine d'industrie à l'ouvrier, en passant par la célébrité du coin, partage cette secrète ambition, ce désir si commun. La pyramide des besoins selon Maslow. Le célèbre psychologue Abraham Maslow a étudié les comportements et besoins humains et a publié cette théorie que vous connaissez peut-être déjà tant elle est devenue célèbre au même titre que son auteur. Il s'agit de la fameuse pyramide des besoins décrite telle qu'elle. Besoins organiques, boire, manger, dormir. Besoin de sécurité, logement. Besoin d'appartenance, besoins sociaux d'appartenance à un groupe, par exemple l'entreprise au travers de valeurs. Besoin d'estime, besoin de reconnaissance, par exemple les titres, les fonctions, les promotions. Réalisation de soi, devenir ce que l'on est capable d'être, c'est l'objectif le plus important pour le travailleur. Maslow part du principe que pour qu'un groupe progresse sur la pyramide, chacun de ses membres doit être contenté pour tous les niveaux inférieurs au niveau visé par le groupe. Vous pouvez compléter cette étude par la théorie des deux facteurs d'Herzberg. Facteur de satisfaction, l'accomplissement, la reconnaissance de l'accomplissement, le travail, les responsabilités et la progression sociale. Facteur de mécontentement. Il touche à l'environnement, soit la rémunération, les conditions de travail, la personnalité du supérieur hiérarchique, etc. Un besoin vital. Comme de respirer ou de boire, vous ne pouvez pas vivre en étant important pour personne. C'est une question de besoin. Que vous en ayez conscience ou non. Le problème vient du fait que les gens, en règle générale, ignorent cet état de fait, pour eux-mêmes comme pour tous ceux qui les entourent. Or, ignorer ce besoin vital vous pousse à commettre de graves erreurs de comportement. Sans même que vous en soyez conscient, vous ne vous en rendez pas compte, mais oublier l'importance de celui qui vous fait face fera de vous son ennemi, sans même parfois qu'il sache pourquoi. A l'inverse, et ceci, C'est la bonne nouvelle, c'est qu'en prenant cet aspect des choses en considération, vous n'aurez aucun mal à récolter un beau succès social. Encore une fois, il ne s'agit pas de flagornerie ou d'hypocrisie, mais simplement de faire ce que les autres attendent et espèrent, les traiter comme vous voudriez qu'ils vous traitent. Marine, l'enfant perdu. L'un de mes plus proches amis vivait un véritable calvaire avec sa fille Marine, qui abordait l'adolescence avec perte et fracas. À 16 ans, c'était une adolescente revêche et agressive, complexée par ses kilos en trop et en plein échec scolaire. Ses parents avaient tout tenté, menaces, récompenses, dialogues, pour finir par l'envoyer en internat car il ne parvenait plus à la contrôler. Mais Marine se fit renvoyer de l'établissement en 2 ou 3 mois et retour à la case départ. Ajoutant, pour parfaire le tableau et parce que ce détail est d'importance, que Marine avait une sœur aînée, Linda, qui s'avérait brillante en tout et physiquement très belle, ainsi qu'un frère cadet, Jordan, dont l'adorable minois et la bonne humeur avaient le don de conquérir tout ce qui l'approchait. Coincée entre ces deux étoiles, Marine se sentait donc comme le vilain petit canard. Une autre approche, trouver l'amorce. Mon ami se plaignant et s'inquiétant sans cesse, il me demanda conseil. Je n'avais pas beaucoup d'affinité avec Marine, tant elle était réservée et revêche. Mais je trouvais dommage qu'elle se retrouve dans cette situation. Elle était loin d'être vilaine et ses résultats scolaires étaient bons jusqu'à son adolescence. Je conseillais donc à mon ami de faire la liste de tout ce qui, à ses yeux, constituait un atout pour Marine. Absolument tout. Les détails physiques, ce qui la passionnait, en quoi elle était douée, etc. Il ne trouva pas grand-chose, mis à part qu'elle avait de beaux yeux. Marine ne s'intéressait à rien, n'avait pas de hobby, rien en quoi elle pût briller. Ce à quoi je lui répondis, qu'il est absolument impossible pour tout être humain de n'être doué en rien. Il suffit de le découvrir. C'est ainsi que, contrainte et forcée, grommelant et râlant à n'en plus finir, Marine testa des cours de piano, de théâtre, de chant, etc. Et un jour, ce fut le déclic, le cours de dessin. Elle s'avéra particulièrement douée dans cet art, à la grande surprise de tous, à commencer par la sienne. Ce détail changea-t-il quelque chose? Bien sûr que oui, il a même tout changé. De l'importance de l'amour propre. Du jour au lendemain, de vilain petit canard qui n'était doué en rien, Marine se vit complimentée pour son talent tout neuf et encouragée à poursuivre. Ses parents ont bien pris soin de donner à leur fille toute l'importance qui lui manquait au sein de la fratrie et de la famille. Et oui, ça a tout changé. Je l'ai vu petit à petit se transformer, prendre de l'assurance, oser de timides sourires, s'ouvrir aux autres. Un petit miracle en somme. Si vous rencontrez des problèmes avec un enfant ou un adolescent, c'est réellement un merveilleux outil que ce besoin d'importance. Il suffit de trouver l'amorce, ce en quoi votre enfant est doué, ce qui le rend attrayant, intéressant, etc. Et de valoriser au maximum, d'encourager, de le rendre important à ses propres yeux en lui faisant comprendre que ça l'est au vôtre. N'oubliez pas et utilisez-le. Il vous sera très facile et bénéfique de tirer parti de ce besoin dans vos rapports humains, même s'il s'agit de vos rapports professionnels. Que fait un commercial quand il se rend à un entretien avec un client? Commence-t-il par parler de sa société, du produit qu'il veut lui vendre, des avantages que son client va en retirer? Il peut, mais dans ce cas, il y a de grandes chances pour que l'entretien ne mène à rien. Les bons commerciaux, les commerciaux efficaces, font d'abord parler leurs clients, les écoutent et valorisent ce qu'ils entendent. Une personne aura toujours plaisir à parler d'elle, de son expérience, de ses réussites, bien plus en tout cas qu'à vous écouter parler. Et si vous lui accordez de l'importance, en retour, elle vous accordera naturellement la même importance. C'est un principe presque mathématique et qui n'est certes pas valable que pour les commerciaux et les adeptes du marketing. Accorder de l'importance à l'autre vous donnera les plus beaux succès relationnels que l'on peut rêver. Famille, amis, collègues, la même chose pour tous. Quels sont les reproches les plus fréquents que vous adresse votre compagne ou votre compagnon? De ne pas lui accorder assez d'attention? De ne même plus remarquer sa présence quotidienne à vos côtés? Avoir la sensation d'être transparent aux yeux de l'autre est vraiment un sentiment difficile à supporter. D'autant plus quand il s'agit de la personne qui partage votre vie. Mais c'est aussi valable pour vos enfants, que vous ne voyez pas assez, pour vos amis que vous n'appelez jamais et que vous oubliez beaucoup trop souvent, de vos collègues de travail que vous ne faites pas assez participer, etc. Avez-vous envie, vous aussi, d'être considéré comme quantité négligeable aux yeux de votre entourage? Bien sûr que non. Donc, ne traitez pas les autres comme vous ne voudriez pas qu'ils vous traitent. Et faites-leur la faveur de leur accorder de l'importance dans votre vie. Chacun à sa mesure, bien entendu. De l'impact du non. Voici également, toujours dans le registre de l'importance que vous accordez aux autres, un détail qui n'en est pas un. Le nom de famille, le patronyme. Si vous êtes comme moi, vous mémorisez facilement un visage, mais très difficilement les noms des personnes que vous croisez. C'était l'une de mes difficultés quand j'étais formateur. J'avais devant 10 ou 15 personnes que je devais interpeller toute la journée et répéter à longueur de temps « Excusez-moi, je ne me rappelle plus de votre nom. » Finissez toujours par créer un malaise. Certes, mes stagiaires comprenaient intellectuellement, mais ne se sentaient pas reconnus. Nommer une personne lui donne de l'importance, la distingue du groupe. C'est autant flatteur qu'agréable, et j'ai donc testé une méthode un peu spéciale pour pallier à ma mémoire trop visuelle. Au tout début de la séance de formation, je faisais un petit schéma de la salle avec la place de chaque participant. Et pendant le tour de table durant lequel chacun se présente, je notais soigneusement les noms des personnes sur chaque emplacement. En l'écrivant, je les mémorisais presque aussitôt, et j'avais toujours la possibilité de jeter un coup d'œil à mon schéma en cas d'oubli. Croyez-moi, l'ambiance des sessions de formation est devenue bien plus chaleureuse et personnelle. Je sais qui vous êtes. Lorsque je travaillais dans ce centre d'appel dont je vous ai déjà parlé, nous avions un directeur de site particulièrement apprécié. Il dirigeait plus de 800 salariés et avait donc des décisions délicates à prendre, des conflits à gérer et des ordres à donner. Pas toujours agréable d'ailleurs, mais nous étions incapables de lui en vouloir. Débonnaire, souriant, agréable, il ne craignait pas de montrer son humanité en cherchant les solutions les mieux adaptées. Et surtout, son attitude était digne d'un maître en relations sociales. Ainsi, il passait souvent sur tous les plateaux de production juste pour dire bonjour et serrer la main à ses 800 employés en les appelant par leur nom. Je ne sais pas comment il faisait, honnêtement, pour les retenir tous. Peut-être utilisait-il, lui aussi, une sorte de schéma à échelle immense. Mais le fait est que ce détail avait une énorme importance dans les sentiments qu'il nous inspirait. Il a dû, comme les autres directeurs de site, faire face aux syndicats, aux grèves, aux réclamations en tout genre, et souvent justifiées. Certes, oui, mais si je vous dis que le jour de son départ à la retraite, les 800 salariés lui ont fait une aide d'honneur jusqu'à la porte de sortie. Et ont applaudi jusqu'à ce qu'il disparaisse de notre vue. Ce jour-là, il a pleuré, et nous aussi. On n'avait jamais vu ça de mémoire de centre d'appel.